Bonjour à toutes et à tous, un poète avec nous dans les studios aujourd'hui, il s'appelle Bernard Fournier. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors Bernard, oui, poète, jusqu'ici j'ai bon, hein, n'hésitez pas à me reprendre
ça va,
à
n'importe là, ça quel va.
Moment de cette conversation. Bernard, vous êtes avec moi dans les studios de CFM Rodez évidemment, mais de passage en Aveyron, même si le lien avec le département pour vous est important.
Il est très fort puisque mes deux parents sont originaires de l'Aveyron, mon père était obligé de s'exiler à Paris, ma mère était orpheline. Donc recueilli par un bougnat, par un oncle bougnat,
ouais, ouais.
Et donc je suis né à Paris, j'ai longtemps habité en banlieue, mais par contre on est passé pratiquement tous les étés à visiter la famille, la grand-mère qui est décédée bien sûr maintenant,
ouais.
Et je continue à visiter ma famille tant du côté de Sénergues que du côté de Pont-de-Salars ou de Saint-Côme-d'Olt.
Très bien, alors vous étiez présent ce week-end à Rodez pour voir la famille, mais pas que hein.
Pas uniquement, puisque le musée Fenaille m'a très gentiment accueilli pour les nuits de la lecture,
oui.
Puisque j'ai écrit une petite suite sur les statues menhirs du musée Fenaille.
Voilà, on va en parler de cet ouvrage pour lequel vous avez proposé de la lecture là, samedi et dimanche au musée Fenaille, un recueil de poésie, hein, puisque vous êtes poète,
oui.
Bernard, qui s'appelle « Dit de la pierre ». C'est aux éditions la Feuille de thé. Alors quand on parle de poésie, bon, bah, ça me rappelle les souvenirs d'école, hein, Bernard, excusez-moi. Hein.
Non, non.
Et alors en ce qui me concerne, ce n'est pas les meilleurs souvenirs.
Quelquefois, non, c'est vrai, la poésie a mauvaise presse parfois.
Alors voilà, ou pas de presse du tout.
Ou pas de presse du tout même.
Je ne sais pas ce qui est le pire. Non mais effectivement, vous êtes poète, Bernard, mais alors, poète, c'est une vie d'artiste, mais j'ai envie de dire c'est pratiquement la plus compliquée parce que la poésie
c'est la plus compliquée et c'est aussi la plus cachée en quelque sorte,
ouais.
Puisque la poésie on le sait pas trop mais est très 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 vivante en France. Il y a énormément de poètes et de revues qui organisent des rencontres, qui organisent des lectures, mais cela ne se sait pas. Il y a même un marché de la poésie à Paris tous les ans,
un marché
qui est très très fréquenté,
ouais.
Et personne ne le sait.
Bah non, mais attends, juste un truc sur le marché de la poésie à Paris, on vend des poèmes sur des stands.
Ah oui, absolument, bien sûr, oui.
Ah bah
oui.
Ah bah
il y a là un monde fou pendant 5 jours et la presse n'en parle pas.
Ah bah écoutez, bah désolé. Alors on en aura parlé un petit peu aujourd'hui,
voilà,
sur
voilà.
CFM à Rodez. Le goût de la poésie, vous est venu quand moi j'en ai été dégoûté à l'école primaire ou c'est venu plus tard pour
Non, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu grâce à la chanson, essentiellement à Georges Brassens.
D'accord.
Voilà. Je me suis dit, oh, c'est formidable ce qu'il écrit. Et plus que la musique, c'était le contenu du texte qui m'intéressait. Et ça, vraiment, ça m'a passionné.
Alors quand on parle de poésie et quand on l'apprend à l'école, on est sur des vers. Des rimes, des structures,
oui,
des strophes.
Alors, la poésie moderne a un peu évolué, ouais. Elle a abandonné largement la rime, mais elle n'a pas abandonné le rythme.
D'accord.
Et le rythme se concrétise souvent par des répétitions, par ce qu'on appelle des assonances ou des allitérations, c'est-à-dire des multiplications de consonnes ou de voyelles.
Mmh. Comment vous vous inscrivez un peu dans l'histoire de la poésie en France? Là, vous m'avez parlé de poésie moderne. Vous êtes,
oui.
Vous faites de la poésie contemporaine, vous êtes un auteur plutôt classique.
Alors, au sens de la poésie contemporaine, je serais plutôt classique.
D'accord.
Parce que je n'éclate pas mon texte dans toute la page comme le font les Émules de Mallarmé, par exemple.
Ouais.
Et je ne pratique pas non plus la poésie surréaliste, donc avec beaucoup d'images. Je suis plutôt terre à terre, disons. avec beaucoup d'imagination, cependant.
Voilà, terre à terre. Et puis, on parle aussi pas mal de pierre, notamment.
Et terre à pierre, alors.
Dans cet ouvrage qui nous a valu votre venue ce week-end au musée Fenaille. Ouais, dit de la pierre. Alors, le lien avec le musée Fenaille, on le fait forcément, un musée Fenaille qui accueille ces fameuses
statues menhirs.
Mais cet ouvrage, ce recueil de poésie, il a un lien avec les statues menhirs, le musée Fenaille, ou c'est un rapprochement qui a été fait à l'occasion des Nuits de la Lecture?
Pas du tout, c'est un lien intrinsèque, à savoir que c'est à partir de ces statues menhirs que j'ai écrit ce livre.
Ah, d'accord.
Ces pierres qui sont admirablement présentées au musée Fenaille, qui m'ont inspiré ce livre, qui est venu quasiment d'une seule traite. Mais j'y ai travaillé ensuite pendant 2 à 3 ans.
Qu'est-ce qu'il y a ? 2 à 3 ans de
oui,
travail ?
Oui, ah ouais. Oui, quand même, oui.
Alors après, c'est vrai que quand on pense à recueil de poésie, on peut parfois penser à de tout petits ouvrages, 12 pages.
Non,
voilà.
Celui-là,
dit de la pierre, non, là...
Celui-là fait quasiment 180 pages.
Voilà.
Il y a quasiment un poème par page. Mais c'est quand même... Il s'inscrit dans une suite. Il y a 5 parties. J'imagine une tribu préhistorique qui trouve une pierre comme ça allongée dans un bosquet, dans un fourré,
ouais.
Qui se disent que peut-être cette pierre n'est pas là par hasard, qu'elle a peut-être des liens avec le ciel, avec la terre, et donc ils décident de la lever, de la dresser comme un menhir,
ouais.
Et ensuite ils décident de la graver. Et donc ils dessinent des statues menhirs comme on les connaît maintenant, et c'est cette femme qui apparaît, ils décident de parler, donc la pierre parle. Ils instaurent un dialogue avec, avec la tribu.
Pour écrire sur ce sujet, ou vos sujets d'une façon générale, puisque des ouvrages, vous en avez écrit de nombreux, hein, autour de la poésie, une petite dizaine déjà.
Oui, environ, oui.
Des essais aussi, des livres d'artistes. Là, pour ce sujet, vous vous renseignez un petit peu sur l'état de la connaissance autour de ces mégalithes, voir un petit peu quelles sont les hypothèses sur leurs origines, leur intérêt, leur sens, ou c'est vous-même qui recréez un monde ?
Alors, un peu des deux. J'ai toujours été féru de préhistoire. Je m'intéressais énormément aux mégalithes, donc aussi bien ceux de Karnak, bien sûr, dans le Morbihan, que ceux de Stonehenge en Angleterre. Et ensuite, c'est mon imagination qui a un peu vagabondé, bien sûr. Et je me suis imaginé, puisque je n'ai pratiquement pas connu mes grands-parents, que c'était peut-être mes aïeux qui étaient ainsi dessinés sur les pierres.
Probablement, c'est tous nos aïeux, quelque
voilà.
part. Hein.
Voilà.
Là, on est sur une thématique dans ce recueil de poésie et dit de la pierre autour des statues menhirs. Donc, on est dans quelque chose de très concret. Ici, à Rodez, on voit très, très bien de quoi il s'agit. On les connaît, ces pierres. Vous inspirez toujours de choses concrètes, réelles. Il vous faut un point de départ existant.
Alors,
ou...
Non, quelquefois je suis un peu plus abstrait, si on peut dire, à savoir que j'aime aussi les figures mythologiques. Donc j'ai écrit tout un recueil sur la figure d'Antigone, par exemple.
Ah, j'avais appris ça pareil au collège.
Et oui, et notamment sur la figure du fiancé d'Antigone, qui n'est pas connu, qui s'appelle Aemon, H-E-M-O-N, et qui est un pauvre gars face à la grandeur d'Antigone.
Ah. Alors, et la poésie, Bernard. Vous l'avez aussi peut-être enseigné, puisque par ailleurs vous êtes professeur.
Oui, j'ai enseigné donc pendant une trentaine d'années en Picardie. Les hasards de la nomination m'ont entraîné par là-bas. Et donc j'ai enseigné un peu la poésie et beaucoup aussi le théâtre.
D'accord. Mais alors la poésie, je reviens sur cette discipline. Vous nous disiez, c'est encore très vivant aujourd'hui, très très actif. Le grand public, c'est pas du tout le sentiment qu'il a. Hein.
Je suis bien d'accord.
Ah. Alors comment vous l'expliquez déjà ? Il y a une explication ?
Oui, je crois que la poésie fait peur.
Ouais.
Parce que on a peur de ne pas la comprendre.
Ouais, c'est possible.
Et la poésie s'est éloignée du peuple d'une certaine manière. Après Prévert, tout le monde connaît Prévert et c'est magnifique ce qu'il écrit. Mm-hmm. Mais après Prévert, c'est très difficile. Et c'est la chanson qui a pris le pas.
Dit de la pierre, donc vous avez fait de la lecture de passage à samedi et dimanche au Musée Fionnaille. Et c'est vrai que rien que dans le titre, le mot dit, D-I-T-S, ça dit bien de quoi il s'agit.
Voilà.
Donc on parle, on dit les choses.
Et c'est la pierre qui parle.
C'est la pierre qui parle. Bon, là, pour le coup, samedi et dimanche, vous avez pris...
Là, c'est moi qui ai parlé.
Vous avez donné votre...
Enfin, je l'ai fait parler.
Vos doigts, voilà, exactement. Oui, la poésie, vous l'écrivez, nous, on la lit.
Oui.
Mais elle est faite au moins autant pour être dite et écoutée que pour être lue ou pas pour vous.
À mon sens, elle devrait être davantage lue, effectivement, quasiment récitée. Alors, bien sûr, je ne peux pas connaître, enfin, je ne suis pas comédien, donc je ne connais pas mon texte par cœur, donc j'ai besoin encore de mon livre devant mes yeux, mais ça serait l'idéal, effectivement, de réciter de la poésie sans le support du livre.
Ça a été quoi, un peu la réaction du public, samedi et dimanche à vous écouter lire vos poèmes.
Je suis pas trop à sa place, mais j'ai deux auditrices là devant moi. Je pense que la réaction était plutôt positive. Quelqu'un m'a dit qu'elle était charmée, par exemple. Le mot est assez fort, il m'a bien plu.
Vous aimez lire comme ça,
j'adore lire, j'adore rendre vivant mon texte.
Parce que les poètes, on peut avoir tendance à faire pareil, la caricature, hein, l'image du poète un peu maudit, toute seule dans sa cave ou dans sa chambre enfermée, avoir personne et à déprimer à longueur de vie. Hein.
C'est ça, oui.
Vous, ça va pas l'air d'être trop le truc ?
Non, non, moi je suis bon vivant, j'aime bien les gens, j'aime bien la poésie aussi.
Ouais. Et parce que pour vous, la poésie, c'est. On n'est pas dans quelque chose de personnel, d'individuel.
Ah, il y a toujours une touche personnelle, puisque ces statues menhirs m'ont touché, comme je le disais, elles me rappellent mes aïeuls, et donc c'est un sentiment personnel. Mais en même temps, c'est une création de l'imagination et j'essaye de rendre vivantes ces pierres.
Là, on est sur cet ouvrage dit de la pierre qui est tout récent, hein, que vous avez...
Oui, il a 2 ans, il a reçu le prix Louise Labbé cette année, en 2023.
Le prix Louise Labbé 2023, voilà. Un prix de poésie, j'imagine.
Un prix de poésie, oui.
D'accord, vous avez mis 2 ans pour l'écrire ?
Disons 3.
3 ? D'accord. Et comment ça se passe, vous travaillez, vous ?
Alors, il y a le premier jet qui vient, un verre, on entraîne un autre, une idée, on entraîne une autre, et puis après, il faut travailler, il faut rendre la chose à la fois audible, pas trop difficile, et en même temps, mettre du style à l'intérieur, c'est-à-dire à savoir ce que je disais tout à l'heure, des répétitions, des marques, des multiplications de voyelles, des multiplications de consonnes pour que cela consonne à l'oreille. Mmh. Je suis un peu, toute proportion gardée, un peu comme Gustave Flaubert qui gueulait son texte dans sa chambre pour l'entendre. Je fais un peu près pareil.
Ah bah tiens, puisque vous me tendez la perche, Bernard, je vais vous proposer de gueuler dans mon micro si vous avez envie, si vous voulez
bien lire un passage. Pourquoi pas, oui.
Un poème extrait d'Odile Lapierre, signé Bernard Fournier.
Voilà, donc je vous lis le poème liminaire. Vivante, vibrante, violente, il y a là une pierre. Là où le ciel rejoint la terre, où l'épaule de la colline épouse le nuage, où les arbres tendent leur front à l'horizon. Fusion de feux et de foi. Nœud entre le ciel, la terre et les hommes.
Merci Bernard. Oh oui, en plus, oui, vous savez lire. Ah, vous lisez très bien.
J'aime
bien. Oui, vous m'avez parlé de théâtre un petit peu plus tôt.
Voilà.
Là, vous repartez, vous allez quitter l'Aveyron là dans la journée.
Oui. Hein,
vous remontez sur la région parisienne.
On va essayer parce qu'avec le train, c'est pas facile.
Ah oui. Marc, ça pourra vous donner l'occasion d'écrire. Ça peut vous donner l'occasion d'écrire. Vous pouvez avoir envie d'écrire des poèmes sur des petits trucs comme ça du quotidien de la vie ou pas.
A priori, non. Mais chez moi, l'inspiration est plutôt lente à venir. Donc, quelque chose qui m'a marqué ne viendra que peut-être dans 2, 3 ou 4 ans.
Ah d'accord.
Oui, l'inspiration est plutôt lente chez moi. Ben, chez moi, pas chez d'autres, ouais. C'est tout à fait spontané.
Et l'écriture pour vous, c'est un exutoire, ça joue quel rôle pour vous?
C'est une nécessité.
Ouais.
C'est une nécessité. Quand j'ai vu les statues menhirs du musée Fenaille, l'écriture, là, elle est venue 2 ou 3 ans plus tard, et voilà, j'ai quelque chose qui me taraudait, que j'avais absolument besoin de d'inscrire.
Hein. Vous écrivez tous les jours?
Non, pas moi, d'autres écrivent tous les jours,
ouais.
Moi j'ai plutôt l'écriture un peu difficile, donc je prends du temps.
Alors, le Dit de la Pierre, c'est votre tout dernier ouvrage.
Oui.
Vous êtes, je ne sais pas comment on dit, de rien expression, mais vous écrivez beaucoup, sans arrêt. Vous êtes déjà en train de travailler un prochain ouvrage ou...
Alors, j'essaie de trouver quelque chose pour un prochain ouvrage. Il y a des petites choses qui viennent ici ou là. J'ai des motivations qui viennent de l'extérieur. Parce qu'on fait partie de petits cercles de poésie à Paris qui quelquefois sollicitent.
Ouais.
Donc on a des idées, on a des mots qui viennent et tout cela se construira au fur et à mesure, peut-être dans 2 ou 3 ans, je ne sais pas.
La poésie, Bernard, comment vous auriez envie de, peut-être à ceux qui nous écoutent, de donner envie, soit d'en lire
J'espère que
déjà.
Le petit texte que
déjà,
je viens de lire,
ouais.
Peut-être résonnera-t-il dans certaines oreilles.
Ouais.
Sinon, oui, il faut lire de la poésie parce que c'est dans la poésie que l'on trouve le meilleur de soi-même. Les poètes parlent d'eux-mêmes, mais en parlant d'eux-mêmes, ils parlent des autres. Donc en lisant de la poésie, on ressent une certaine fraternité avec les douleurs et les joies qui les ont accompagnés et qui les ont fait naître.
Vous avez des maîtres en
oui,
poésie?
Oui, bien sûr. Alors, mon premier maître a été Stéphane Mallarmé. Non pas dans son côté hermétique, mais dans son côté, précisément, il était professeur d'anglais, un peu chahuté, et j'ai trouvé l'homme sympathique. Et en plus, il réunissait des gens chez lui. Et... Les deux poètes contemporains qui m'ont un peu influencé, c'est dans un premier temps Guilvic.
Ah, mais je ne connais pas. Un petit mot sur ce monsieur.
Alors, Guilvic est surtout connu pour être né à Carnac.
Oui.
Et Carnac, ce sont les monuments mégalithiques.
Ouais, aussi, il y en a
voilà, donc là, il y a un lien aussi très évident avec la pierre. Le deuxième a été un autre poète qui était très très peu connu, qui s'appelle Pierre Auster, non pas comme le romancier,
oui,
mais O-S-T-E-R,
ouais,
qui est un poète très très méconnu et qui pourtant j'aime beaucoup. Et le troisième qu'il faut que je cite, c'est Marc Alain, A-L-Y-N, mm-hmm. qui écrit une poésie flamboyante, vraiment flamboyante, issue du surréalisme.
Tiens, excusez-moi Bernard, parce que dans les noms que vous m'avez cités là, il n'y a que des hommes.
Bonne remarque.
Les femmes et la poésie.
Alors j'ai récemment dans un des numéros de la revue Poésie Première qui va bientôt paraître, j'ai écrit un article sur une poète d'origine libanaise qui s'appelle Noad Salameh, S-A-L-A-M-E-H.
D'accord.
Très très bonne poète d'origine libanaise mais française.
Ouais. Le Poésie Première, c'est quoi ce...
C'est une revue de poésie qui existe depuis une trentaine d'années,
oui.
Comme il en existe certaines dans le territoire français et qui publie des études sur la poésie, des poèmes et des réflexions sur la poésie.
Quelle place elle peut, d'après vous, parce que pour la poésie, j'y reviens, ça passe un peu comme une discipline, je ne vais pas dire passée, mais enfin bon.
Oui.
Qu'est-ce que ça peut apporter au 21e siècle ?
Un éclairage sur le monde, parce que la poésie parle de tout, elle parle aussi bien de la guerre, et les poètes ukrainiens en ce moment essayent de se faire entendre, et Dieu sait qu'ils ont du mal. Ouais. Les poètes russes également, qu'il faut écouter aussi parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Et non, la poésie parle vraiment au très fond de nous, plus qu'un roman peut-être, parce que la poésie nous fait réfléchir aussi.
Oui.
Elle nous envoie dans l'imaginaire, mais nous fait réfléchir. Et c'est peut-être quelquefois pour cela qu'on a du mal à la lire, parce que elle nous provoque d'une certaine manière.
Alors là, vous avez évoqué l'Ukraine, la Russie, donc oui, vous suivez l'actualité. Mais à quel point ? Parce que là, bon, le musée Fenaille, les statues Ménier, on n'est pas dans de l'actu.
Il n'empêche, aussi bien le conflit à Gaza que la guerre en Ukraine m'interpelle, et aussi bien que je suis interpellé par les statues menhirs, il n'y a pas de degré d'interpellation, tout m'interpelle au même niveau, donc les guerres au niveau actuel maintenant et les statues menhirs dans notre histoire à tous, puisque il s'agit de la préhistoire, de notre préhistoire.
Alors vous venez régulièrement en Aveyron, c'est le territoire d'origine d'une bonne partie de votre famille, Bernard.
Oui.
Là, le musée Fenaille, donc vous l'avez découvert
récemment, oui, ça fait une dizaine d'années environ.
Ouais.
Pour moi, c'est récent. Parce que moi, je viens en Aveyron depuis mes un an.
D'accord.
Depuis que je suis né. Par contre, quand on allait visiter la famille, eh bien, on visitait la famille. On visitait pas ni Conques, ni les musées de Rodez. Donc, c'est en prenant connaissance de cette ville de Rodez que j'ai découvert ce musée Fenaille et ces fameuses statues de menhir.
Alors, il y a d'autres musées à
Rodez. Oui, il y a le musée Puech, bien sûr. Le musée Soulages également, bien sûr.
Vous connaissez?
Oui, bien sûr.
Les deux, vous êtes allés.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui.
Il y a d'autres choses qui pourraient vous inspirer à part les statues menhirs, soit sur Rodez, soit sur l'Aveyron. Le pamp Soulages. Comment vous envisagez Soulages?
Je suis un peu embêté pour répondre parce que.
Non, mais c'est bien.
Je sais bien que c'est la gloire la gloire régionale, bien sûr. J'ai un peu de mal avec la peinture moderne, à vrai dire.
Ah, d'accord.
Oui. Je préfère un peu le figuratif.
Ah, oui.
Et du reste, je suis allé très récemment à la grande halle de la Villette. Il y avait le salon d'automne et j'ai remarqué un grand retour à l'aspect figuratif. Avec une parodie, bien sûr, sur les thèmes du 19e siècle. Voilà, il me semble qu'il y a un grand retour au figuratif.
D'accord. Donc, Soulages, c'est pas trop votre truc.
Mais j'ai visité le musée tout de même.
D'accord, donc on n'aura pas de poème sur Soulages, a priori signé Bernard Fournier.
Sait-on jamais, mais le noir n'est pas tout à fait ma couleur.
Bernard, on arrive bientôt au terme de cet entretien déjà. Est-ce que je peux vous demander peut-être un autre, second extrait de Guy de la Pierre, votre recueil de poésie qui a quelques mois à peine et qui nous a valu votre passage à Rodez ces jours-ci, notamment au musée Fenaille pour la lecture samedi dimanche dans le cadre des nuits de la lecture.
Deuxième partie qui s'appelle Pierre levé et que j'ai un peu traduit en occitan, Peira levada. Il ne se peut pas que cette pierre demeure couchée, alitée comme un enfant malade, qu'on la laisse gésir, dormir, vagir, se briser peut-être.
Merci Bernard. Guy de la Pierre, c'est aux éditions La Feuille de Thé. 180 pages, vous m'avez dit ?
Oui, environ.
Environ. Et un ouvrage à retrouver dans toutes les bonnes librairies.
Un dernier petit poème pour la route ?
Ah bah, avec plaisir, oui, ah bah ça, bien sûr.
Une femme est venue. Une femme avec son enfant. Elle a passé sa main sur la pierre pour que son enfant vive. L'enfant a vagi. La pierre aussi.
Merci beaucoup Bernard, c'était un plaisir de vous accueillir dans nos studios.
Merci à vous.
Vous et votre épouse qui vous a accompagné pour ce...
Qui est poète également.
Poète également, ah bah voilà.
Sous le nom de Daniel Cor, CO2RE. Daniel avec un seul L là.
Eh bah voilà, bah fallait le dire.
Voilà, c'est dit.
Disons, un peu plus, on passait à côté. Alors Bernard ou votre épouse, il y a ce livre, Guy de la Pierre, qu'on peut retrouver à la Maison du Livre, partout sur Rodez, et au musée Fenaille aussi, évidemment.
Bien sûr.
Sinon, est-ce que vous êtes très réseaux sociaux, vous? Comment on fait pour vous suivre?
Oui, je suis un peu sur Facebook, effectivement, oui.
Comment on fait pour vous retrouver?
Vous tapez Fournier Bernard ou Bernard Fournier.
Ah, il doit y avoir un paquet, un kit de...
C'est vrai, mais il se trouve que sur Facebook, j'ai deux profils.
D'accord.
Beaucoup n'ont qu'un profil, je ne sais pas comment ils font, ils sont sans doute égyptiens. Moi, j'en ai deux tout à fait naturellement, donc j'ai Fournier Bernard et Bernard Fournier.
D'accord, et on retrouve votre actualité.
Oui, alors, il faut faire attention, quand même, effectivement, c'est un nom plutôt commun, j'allais dire banal, puisque le Fournier vient du four banal.
Ah oui.
Oui.
Oui, bien sûr.
Et donc, si on tape Fournier Bernard Poète, on a ma petite page Wikipédia.
Très bien. Ah oui, parfait. Oui, vous avez une page Wikipédia.
On saura tout.
Et votre épouse ?
Alors, elle n'a pas de page Wikipédia, il faudrait que je le fasse.
Ah bah oui, ça serait bien.
Mais il faut aller la voir parce qu'elle écrit de très très belles poésies. Elle a eu de très nombreux prix, dont le prix Max Jacob, un très très important prix de poésie.
Ah bah voilà. Écoutez,
qui était très ami avec un grand poète de notre jour, qui s'appelle Georges-Emmanuel Clancier.
Bon, eh ben c'est bien noté. Ben, ça sera un plaisir de vous interviewer lors de votre prochaine venue en Aveyron. Vous avez prévu de revenir ou pas ?
Eh bien, quand vous voulez.
Ah bah, on va s'arranger.
Oui.
Merci beaucoup, Bernard.
C'est moi.
Bonne journée et bon retour.
Merci beaucoup.
just a breeze.